Sous les jupes des films.
Une émission pour cinéphiles compulsifs de Julien Védrenne.
Play it once, sir. For all time's sake.
Sarah Connor.
My name is Bond. James Bond.
Vodka?
Don't you use olives?
Perfect. Cheers.
Cheers.
Auditeur de Radio G qui adorait les films de science-fiction apocalyptique avec extraterrestres, pandémies, vampires et zombies sur fond d'interrogations métaphysiques, bonjour. Bienvenue dans l'émission qui donne envie de revoir les films que vous n'avez pas encore vus. Aujourd'hui, Mathilde Amet est une extraterrestre en état d'hibernation récupérée en compagnie de deux de ses alter-ego dans un vaisseau naufragé dans le sillon de la comète de Halley par l'équipage du Churchill. Le colonel Tom Carlsen est bouleversé par cette rencontre avec celle qui représente son idéal féminin. Seulement, le Churchill va être la proie d'une furie meurtrière desséchante et il va fuir dans une capsule de sauvetage alors que la navette revient sur Terre carbonisée. Mais à Terre, les hommes ne s'attendent pas à ce qu'ils vont découvrir et ce que tout ça va déclencher. Life Force de Tobe Hooper, c'est maintenant.
Bukowski.
Le Churchill est une navette anglo-américaine qui est censée s'approcher de la comète de Halley pour y dénicher des informations scientifiques de première. Seulement, l'équipage observe dans son sillage un étrange bâtiment de 240 km de long à la proue en forme de parapluie. Les membres de l'équipage décident d'une sortie dans l'espace pour aller explorer l'étrange objet volant. Ils ne tardent pas à faire la découverte macabre de centaines de corps momifiés. Mais à l'intérieur, ils découvrent parfaitement conservés dans des sarcophages de verre trois corps humains, deux hommes et une femme, nus, qu'ils s'empressent de ramener à bord du Churchill. Mais peu à peu, dans la navette humaine, des événements étranges se manifestent. Des comportements surprenants apparaissent. Et des exacerbations naissent. Puis le corps complètement desséché de l'un des membres signe le début d'une extermination. Le colonel Tom Carlsen est l'unique survivant de cette folie meurtrière et s'est retranché dans une capsule de sauvetage. Mais la navette et ses occupants extraterrestres rescapés a été récupérée par l'agence spatiale anglaise. Les scientifiques ne tardent pas à y aller de leurs conclusions. Parmi eux, le biologiste et surtout thanatologue Falada, pour qui l'occasion est trop belle. Il va en savoir plus sur les drains d'énergie et sur la vie après la mort. Mais les extraterrestres retrouvent leur liberté, échappant aux balles des mitraillettes militaires et semant sur leur passage une mort atroce sur fond de vol de corps et d'emprise mentale. Pendant ce temps, leur navire spatial s'approche pour récupérer une énergie vitale. Plus que jamais, il faut aux colonels Carlsen et Kane mettre un terme à ce fléau.
But to answer your question, yes, I think there is. If I am correct, the life force is conserved always and in all things, even after death.
And you think that applies to what's happened here tonight?
Yes. Yes, I do. I think that girl, creature, drained energy, life force, partially from Bukowski and totally from the guard.
A vampire?
It could be described that way, yes. I mean, in a sense, we're all vampires. We drain energy from other life forms. The difference is one of degree. That girl was no girl. She's totally alien to this planet and our life form. And totally dangerous.
Sous-titré à sa sortie L'étoile de la mort, référence explicite à Star Wars, dont la trilogie originale sort entre 1977 et 1983, Life Force est dans la mouvance science-fictionnelle de son époque, quelque part entre Star Trek et Cocoon, ce dernier sortant la même année en 1985. On notera que le film est réalisé par un maître de l'horreur et du slasher, Tobe Hooper, à qui l'on doit la série Massacre à la tronçonneuse, Le crocodile de la mort, Poltergeist ou encore L'invasion vient de Mars, autant de thèmes déployés qui attisent les peurs de l'époque. Ici, sur une musique d'Henri Mancini, loin de la Panthère rose, avec des tonalités plus stridentes et angoissantes, il adapte un scénario de Colin Wilson, l'un des maîtres des romans d'angoisse et d'apocalypse, qui, en compagnie de Russell H. Greenan, aime particulièrement faire souffrir l'humanité et y aller de son lot d'hémoglobine. On notera au passage que les effets spéciaux, quand ils ne sont pas spatiaux, passent encore très bien visuellement, surtout lors des transferts d'énergie entre les corps avec dessèchement atroce de l'un. Et que la folie qui s'abat sur la capitale anglaise dans un véritable hommage au film de zombies est magnifiquement tournée jusqu'à une fin extraordinaire qui ne serait pas sans rappeler celle du Seigneur des Anneaux dans une cathédrale avec une épée digne d'Highlander. Il faut aussi noter la performance quasi épurée de Mathilda May, qui interprétera plus tard l'exploratrice Isabelle Eberhardt, mais qui pour l'heure est une manipulatrice retorse qui donne du fil à retordre à Steve Railsback, Cockfighter, les traqués de l'an 2000, Peter Furth, À la poursuite d'Octobre Rouge, MI5, et Frank Finlay, Othello, 3 milliards d'un coup.
Mais Julien, qu'y a-t-il sous les jupes de ce film ?
Il y a beaucoup de notions métaphysiques derrière cette adaptation de Colin Wilson. Le film de science-fiction va également emprunter à l'univers gothique apocalyptique, allant du vampire au zombie en passant par un final hallucinant dans la crypte d'une cathédrale. Le personnage joué par Frank Finlay est un thanatologue intéressé par ce qu'il y a après la mort et qui trouve sa matière dans la résurrection momentanée des cadavres laissés par Mathilda May et ses sbires, puisqu'ils survivent 2 heures après leur mort, avant d'exploser, réduits en poussière, totalement desséchés comme si le drain d'énergie avait également puisé les 80% d'eau de leur corps. On retrouve aussi dans ce film des années 1980 l'une des premières thématiques du film d'horreur, le savant fou. Ici, il est un peu plus sage, puisque adoubé par la communauté. Mais c'est lui, par extension, qui encore une fois amène le mal à l'intérieur de la société, sous couvert de découvertes scientifiques. Mais un événement vient également se confronter à cette idée primaire, puisqu'il sera dit que les extraterrestres sont déjà venus sur Terre au moins à une reprise, et que le thème du cheval de Troie y est mis en joli abîme. Terminons sur la notion d'apparence. Mathilda May représente l'idéal féminin d'un homme, et une scène troublante, révélatrice des désirs, est magnifique dans une cellule d'un hôpital psychiatrique qui trouvera écho à la toute fin, elle aussi, extraordinaire. Life Force de Tobe Hooper, c'est un film de science-fiction apocalyptique qui n'a pas pris une ride et qui offre une puissante réflexion métaphysique. Et c'est en Digibook, 4K, Ultra HD, plus Blu-ray, plus livré chez Sidonis. Nous, on se retrouve très vite pour un nouveau film de genre.
C'était Sous les jupes des films, une production Masque Noir pour Radio G. Musique de générique Toops Baby d'après Alain Souchon, natif de Casablanca.
Sous les jupes des filles, c'est aussi les voix d'Alice Tudou et de Philippe Routier.
To be continued.